Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, vous ici, bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Florent Layani. La gourmandise ce matin, c'est un chant religieux latin attribué au moine bénédictin et poète du 8e siècle, Paul Diacre. Figurez-vous que c'est de cet hymne à Saint-Jean-Baptiste que proviendrait le nom des notes de musique employées entre autres dans les pays de langue romane. Au 11e siècle, Guido d'Arezzo, un autre moine, a l'idée d'utiliser la première syllabe des 6 premiers vers du texte de son prédécesseur, ce qui donne ut, ré, mi, fa, sol, la. Il faut attendre le 16e siècle pour qu'un autre homme ajoute le si, composé avec les deux initiales du dernier vers de l'hymne et que le ut se transforme en do, plus facile à prononcer. La démonstration visuelle est plus convaincante que moi. Nous mettrons le texte latin sur le site de l'émission. Réalisatrice, auteure et dessinatrice, notre apothicaire de l'âme étudie d'abord la littérature et l'histoire, puis l'animation aux Arts Déco. Son originalité éclate dès son film de fin d'études, Le merveilleux Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Rasputin, qui remporte le prix du meilleur film d'animation francophone à Clermont-Ferrand. De son acrylique sombre, l'artiste façonne une suite de petits chefs-d'œuvre drôles, sensibles et mélancoliques. Elle dévoile la poésie des fantômes, le risible et la souffrance des démons intérieurs ou l'angoisse combattue par le rire de survie. Son film Le repas dominical est couronné du César du meilleur court-métrage d'animation. En 2017, c'est au tour de Gros Chagrin mêlant animation et prise de vue réelle d'être distingué. Prix du meilleur court-métrage à la Mostra de Venise. J'ai jamais cité autant de prix, mais ça vaut le coup. Les objets conçus par notre apothicaire sont de petits trésors ayant nécessité du temps, du labeur et de la solitude, soit ce qui caractérise l'agenda d'un véritable artiste. Bonjour, Céline Deveau.
Bonjour Eva Bester.
Première question inévitable dans cette émission, Céline Deveau, quel est votre rapport à la mélancolie, vous qui en distillez tant dans vos petits films ?
Alors j'ai un rapport étrange même au terme de mélancolie parce que je trouve que c'est un terme qui invite à une certaine beauté, à un certain abandon, qui pour moi est totalement séparé de l'idée de mélancolie parce que pour moi la mélancolie c'est l'angoisse et donc c'est exactement ce que je ne veux pas ressentir. Donc si je suis dans un état mélancolique, je ne chercherai pas à le rallonger. Au contraire, je chercherai systématiquement à l'écourter.
À le fuir.
À le fuir. Et puis, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre sa richesse ou sa valeur une fois que le passage est terminé, quoi. Une fois que l'expérience est terminée. On comprend que ça peut apporter de la complexité à nos pensées, à nos souvenirs, même de la générosité auprès des autres qui en souffrent.
De l'empathie.
Ouais, de l'empathie. Après, j'ai cette espèce de quête de la mélancolie, pour moi, c'est une sorte de pensée de privilégié de l'âme, quoi. C'est quand on est...
Quand on la cherche.
Ou quand on la cherche, ouais. Ou quand on cherche à la faire durer, ou quand on parle de mélancolie en disant « j'aime la mélancolie, j'aime m'y, entre guillemets, vautrer ».
Oui, la complaisance mélancolique.
Ouais, ça, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est lié à l'angoisse, et l'angoisse, c'est quelque chose qui n'est pas beau, c'est un vide, en fait.
Céline Deveau, je sais que vous appréciez comme moi Sioran. Et lui disait dans ses exercices d'admiration que la seule méthode qu'il ait trouvée dans sa vie pour justement mettre ses démons, angoisses et son spleen ailleurs qu'à l'intérieur de lui-même, c'est l'écriture. Est-ce que, parce que c'est devenu un cliché un peu chez les artistes, mais c'est sans doute vrai, est-ce que vraiment quand vous mettez de la noirceur et de la mélancolie dans vos films, vous en avez un peu moins, vous, dans les viscères ?
En fait, je crois qu'il y a un exercice un peu dangereux quand on écrit et qui est... En tout cas, pour moi, le Graal, c'est ce moment où on sent qu'on est en train de dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire. Et ça, c'est une grande libération. C'est-à-dire quand une phrase parmi les autres phrases vient de notre honte, vient d'une vraie, vraie sincérité, de quelque chose qu'on aurait presque du mal à dire à des amis, ou en tout cas qui serait resté une anecdote vraiment privée, quoi. Et l'idée de la transmettre aux autres et de dire « je partage ma honte avec toi », alors oui, ça c'est vraiment se décharger de quelque chose sans aucun égoïsme en fait. Au contraire, c'est dire « viens partager avec moi puisque je suis sûre que toi aussi tu le ressens », mais que dans les structures sociales dans lesquelles on évolue, ces mots-là ne sont pas bienvenus, quoi.
Oui, et puis je vais partager avec vous ma noirceur, mais de la plus jolie façon possible, puisque par le biais d'une œuvre d'art et non pas par le biais de sanglots et de morve éternelle sur l'ami en question.
Exactement, exactement.
Bon alors j'annonce ce que vous allez convoquer Céline Deveau dans quelques instants. Il sera question d'Alain Resnais, de respiration, de danse, de baignade, de votre atelier, d'Heidegger, d'Agatha Christie, de Booba, de Prince, de Camille Henrot, de Bruegel et d'autres artistes, juste après le titre Walking in the Dark de Métronomie. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de la réalisatrice Céline Deveau.
Venez vous asseoir tout près de moi, tout près.
Je suis timide ce soir, mais c'est exprès.
Alors c'est sans doute que je vous dégoûte.
Ah, dites plutôt que vous me plaisez trop.
Que dis-tu de mon décolleté? Que dis-tu de ce grain de beauté?
Oh,
et mon dos?
Quel morceau?
Et ma peau?
Et les os?
Et l'oreille?
Ah mon Dieu, j'ai chaud!
Alors?
Quoi?
Qu'est-ce que vous en dites?
De quoi?
Ben, de l'appartement.
Bah, il est bien, il... Non, non, mais il est très bien.
As-tu les baisers dans le bouche?
Sacrable!
Les caresses un peu partout.
Oh, mon Dieu!
Les papous!
Sommes tatoués!
Les drapous!
Oui, oui, oui!
Et le reste, la grande
fille! Aimez-vous un homme fou?
Ça dépend!
Absolument fou de vous!
Et comment?
Je n'en peux plus!
Moi non plus!
Je suis foutu!
Qu'attends-tu?
Mais le reste...
1997, on connaît la chanson d'Alain Resnais, film écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, et inspiré à Resnais par le scénariste britannique Dennis Potter, qui intégrait à l'intérieur de fiction à dimension sociale des chansons du patrimoine. Là, on entendait Lambert Wilson et Agnès Jaoui. Et donc, je vous laisse, pour le peu d'auditeurs qui n'auraient pas vu le film, Céline Deveau, dire de quoi il s'agit.
Donc c'est un ensemble de personnes qui sont réunies à la fois par le spleen justement et la recherche d'appartements. Ça parle beaucoup d'immobilier, d'espace domestique, de comment vivre et où vivre. Et en fait, c'est un excellent départ en fait pour que tous ces personnages déjà se croisent. Donc il y a des anciens amants, il y a des nouveaux amants, il y a des frères et sœurs et tout ça. Et aussi pour que leurs peurs respectives se révèlent, quoi.
C'est que c'est une comédie sur la dépression.
Ah, c'est absolument une comédie sur la dépression. Et c'est un film que j'ai énormément regardé enfant. Bon, à l'époque, peut-être que j'étais pas encore consciente que la dépression me guettait, mais en tout cas, c'était un film qui me ravissait parce que cette espèce d'équilibre entre le sordide et ce soulagement merveilleux de la musique pop, vraiment, j'adorais, quoi. Et j'ai compris adulte, en fait, que ça conjurait des choses que je ressentais déjà enfant et que j'ai ressenti par la suite, quoi.
Puisque, en fait, tous les dialogues sont interrompus par des chansons du répertoire français que les acteurs miment en playback.
Ouais, c'est ça.
C'est assez amusant et c'est vrai qu'il y a des dialogues comme Azéma qui dit à Bakri « Tu fais une dépression, toi aussi ?» Et il répond « Ouais, enfin, j'espère. » Ou Jaoui qui dit « Ça dure combien de temps une dépression ?» Et Dussolier qui dit « Je sais pas, moi, ça fait 4 ans.
» Oui, et puis il y a cette merveilleuse conversation entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bakri à la fin du film, où Jean-Pierre Bakri dit « Mais qu'est-ce que je suis soulagée ! Mais moi, je croyais que j'allais faire une crise cardiaque » ou je sais plus quelle maladie il invoque, mais c'est très drôle parce qu'il est vraiment soulagé d'être dépressif, en fait. Au lieu de, enfin, que l'hypochondrie soit expliquée enfin.
Alors après le chant, restons dans l'univers ORL avec votre remède suivant, Céline Deveau, la respiration. Chez vous, elle se manifeste, la mélancolie, par de l'angoisse, vous l'avez dit tout à l'heure, et quelque chose de très physique, c'est physiquement donc que vous la traitez.
Oui, en fait j'ai appris ça avec différents thérapeutes, mais enfin il y a quelque chose de... Je pense que l'angoisse, c'est l'incompréhension générale du monde. C'est qu'on est insensibilisé aux choses du monde. On est insensibilisé visuellement, auditivement, enfin.
Ou trop sensibilisé, non?
Bah, il y a cette espèce de, d'opacité générale, je trouve. Et quand on est quelqu'un qui se targue d'être un peu perspicace, de comprendre le monde dans lequel on évolue, ou du moins de s'y intéresser, c'est très difficile d'accepter ça. Et je pense que le corps est évidemment le premier, voilà, le premier terreau pour ça. Il y a cette espèce d'immense mystère pour tous nous autres malheureux qui ne sommes ni médecins, ni kinésithérapeutes. C'est qu'on ne comprend rien, en fait. Et donc, évidemment, c'est très très facile d'avoir peur et de mourir et d'être blessé et d'être malade. C'est le premier rapport facile pour trouver un lieu de peur, quoi. Et en fait, un jour, on m'a expliqué pourquoi j'avais mal et comment les organes étaient liés entre eux et comment tel muscle était attaché à tel autre muscle et comment les os étaient... Enfin bref, vous voyez, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais toujours pas l'expliquer, mais on m'a appris à respirer. Et... la femme qui m'a appris à respirer m'a expliqué que les enfants, les nourrissons, respirent par le ventre et qu'en fait, l'éducation fait qu'on nous apprend à respirer par le haut et que c'était une erreur, mais comme une sorte d'erreur profondément culturelle, comme une vaste erreur très très ancienne que tout le monde croyait qu'il fallait bomber le torse en fait. Et ça m'a énormément marquée. Et elle m'a beaucoup soulagée, cette femme. Elle m'a appris voilà, à calmer certaines choses.
Alors j'ai lu en préparant cette émission qu'une profonde inspiration, justement, ça permettait de diminuer la production de noradrénaline, une des hormones responsables du stress. Mm-hmm. Mais vous, alors, c'est quoi votre technique, Céline Deveau ? C'est simplement de respirer par le ventre ou vous avez une technique précise ?
Oui, en fait, ça oblige à une certaine patience, qui est le contraire de ce qu'on a quand on est stressé ou quand on est angoissé. Et il faut respirer par le ventre et plusieurs fois et pendant longtemps, doucement, sans forcer. Donc en fait, c'est insupportable pour quelqu'un qui a mal ou qui se sent mal, parce qu'il a envie qu'on lui donne une solution. C'est pour ça qu'on prend des médocs, en fait. Et du coup, ça apprend à la fois la patience et en même temps, ça calme tout le corps, quoi. Donc, généralement, les crispations disparaissent. Mais c'est assez drôle parce que ce rapport au corps dans les corrections, justement, de Jonathan Franzen, il y a un des personnages qui est très, très à l'écoute de son corps en termes dépressifs. Donc, il calcule son taux de sérotonine, ou du moins, il croit le faire. Et puis, il guette les signes de la dépression avec en majuscule. C'est hyper drôle parce qu'il veut une solution rationnelle. Il supporte pas que ce soit aussi inconnu, aussi obscur, quoi.
Ouais, c'est accepter notre impuissance, c'est absolument terrifiant. On l'accepte jamais réellement.
Non, je pense pas.
Non. Bon, alors, j'ai un tout petit exercice à proposer aux auditeurs et à vous, Céline Deveau. Il paraît que c'est très bien d'inspirer d'inspirer lentement par le ventre et d'expirer comme si on imaginait souffler dans une petite paille. Voilà, j'ai essayé et j'ai failli m'évanouir. Donc je vous laisse essayer chez vous. Le thème principal du film La Piscine, composé par Michel Legrand pour illustrer l'activité qui vous grise, Céline Deveau, c'est la baignade. L'une des choses que vous trouvez le plus apaisante, vous imaginez être sous l'eau et voir flou le soir dans votre lit quand vous n'arrivez pas à dormir.
Oui, voir flou, être dans l'eau ou imaginer un fleuve, enfin quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Quoi. Il y a quelque chose qui me soulage dans cette idée, qui me réconforte. Ce mouvement inexorable qui est complètement extérieur à moi, et il y a quelque chose avec le cristal de l'eau, je sais pas, ça me fait du bien.
J'ai l'impression, Céline Deveau, qu'on supporte le monde quand nos sens sont anesthésiés, quand on voit flou, qu'on entend mal, qu'on ne ressent pas trop. C'est pour ça en fait qu'on cherche l'ivresse. Tout à l'heure vous faisiez mention des médicaments, on aime s'anesthésier en fait, c'est trop douloureux.
Alors en fait je sais pas, parce que l'anesthésie, c'est bizarre, parce que pour moi, l'ivresse, c'est pas l'anesthésie, c'est l'impression que... Alors, ça peut évidemment être un remède quand même. D'ailleurs, je me disais en venant ici que c'était assez drôle qu'on contourne quand même les remèdes les plus utilisés par les trois quarts de gens, c'est-à-dire fumer beaucoup de clopes et boire beaucoup d'alcool.
Oui, avec modération, parce que ça a un effet dépresseur en trop grande quantité.
Absolument, mais vous voyez ce que je veux dire, ce serait le très mauvais remède, mais le plus évident, quoi. Et l'anesthésie, pour moi, c'est pas heureux. C'est-à-dire que le bonheur est lié à l'acuité des sens. Et l'anesthésie, pour moi, est au contraire liée au fait que soudainement, je vais voir beaucoup, beaucoup de choses sous une lumière extrêmement négative. Je vais les voir tout autant. Mais il n'y a pas cette espèce de calme qui vient avec l'observation. Observer le monde, c'est l'accepter tel qu'il est. Le subir, ça, c'est autre chose. Et c'est l'idée quand même qu'il y a une sorte de voile qui se met. Enfin, c'est le fameux... Enfin, j'avais mis ça du coup dans mon film L'Europa Dominical. Le héros rentre en métro et est horrifié par la population du métro. Mais ça pour moi, c'est de l'anesthésie. Ça veut dire qu'il n'est capable de voir que le mauvais autour de lui. Tout est laid, tout est blessé, tout est gris, quoi.
Lorsque vous êtes dans votre lit, ou j'espère que ce n'est pas pareil dans le métro, Céline Deveau, vous dites que c'est le meilleur endroit au monde numéro 1. Numéro 2, on le découvrira tout à l'heure. Même en cas d'insomnie, puisque vous avez l'air d'être assez angoissée, et donc un lit n'est pas toujours synonyme de sérénité.
Alors, non, c'est vrai. Mais après, c'est parce que je trouve que c'est quand même un endroit multifonction. Et que j'y travaille beaucoup, j'écris beaucoup dans mon lit. J'ai une grande passion pour des choses extrêmement domestiques et un peu bourgeoises qui me rassurent. Je sais pas moi, des draps de bonne qualité qui seraient frais, qui sentiraient bon. L'odeur de lessive, je ne peux rien y faire. C'est horriblement culturel, mais ça me réconforte. Et il y a quelque chose avec cet endroit qui fait que on pourra toujours s'y reposer, même si on n'y parvient pas. Je n'aurais pas peur d'y aller, quoi.
Vous mangez dans votre lit ?
Oui.
Il y a des miettes ?
Oui, c'est très désagréable.
Il y a une autre activité euphorisante pour vous, Céline Deveau, c'est de danser. Parce que vous dites, si on est en train de danser, ça veut dire que ça va déjà un peu bien. Est-ce que vous avez déjà essayé de danser triste ?
C'est très difficile de danser triste. On se sent responsable de tous ses membres, on se sent désarticulé, on se sent observé. Bon, d'ailleurs, comme tous les gens tristes, on est complètement autocentré, donc on a l'impression qu'une salle entière est en train de nous regarder. C'est très difficile, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est que quand je danse, je sais que ça va déjà à peu près bien.
Et justement, on se sent observé par soi. Est-ce que vous êtes inhibé lorsque vous dansez ? Ou est-ce que vous arrivez à vous oublier ?
En fait, la danse, ça a souvent été une activité assez solitaire, ou en tout cas un truc que je faisais beaucoup, notamment avec ma sœur quand on était enfant. Et on dansait toutes les deux convaincues justement d'avoir un auditoire énorme, quoi. Donc on était dans notre chambre et puis vraiment, enfin, il y avait tout un rituel. On était presque maquillés, quoi, à 14 heures pour danser. Et en fait, c'est lié à une forme de joie très pure, un truc physique où on se retrouve suant dans la maison familiale à 15 heures et ça, il n'y a aucune bonne raison pour l'être. Et je trouve ça assez beau.
Sa mère est belle, très belle. Et avant, elle était plus encore. Quand elle parle à son fils, elle se regarde en lui comme dans un miroir. Elle est déçue et jalouse de son sexe et de sa jeunesse. Elle lui répète souvent « Ah mon chéri, tu savais ce que j'ai fait.
Tu savais ce que j'ai
moi
fait.
Moi aussi.
Moi aussi.
Elle l'embarrasse toujours un peu parce que elle lui parle de ses aventures lesbiennes en pension quand elle était adolescente. Elle lui parle de ses conquêtes passées et du désir qu'elle éveillait chez les hommes. Et ça, c'est gênant. Hein.
Céline Deveau, on entend un extrait de votre court-métrage Le Repas Dominical avec la voix de Vincent McCaigne. J'ai choisi l'un de vos films parce qu'on va parler de votre rapport au travail. Mais avant, j'aimerais revenir sur une chose que vous dites à propos de ce film. Il n'y a rien de pire que la solitude et la mélancolie ressentie avec des gens qu'on connaît bien.
Oui, je pense, en fait, pour moi, c'est la garantie qu'on va très mal. Les gens qu'on aime ou qui nous connaissent bien, c'est beaucoup plus difficile de leur mentir déjà. Et ensuite, l'inconfort avec des gens qui sont les représentants du confort affectif signifie que l'inconfort est réel.
Quand ils représentent le confort affectif.
Absolument. Mais je parle pas spécialement de famille. Hein. Oui. Ça peut être des amis, ça peut être...
Vous nous rassurez.
Oui, oui, c'est pas du tout... Je n'ai pas de loi là-dessus. C'est-à-dire que se sentir mal parmi des inconnus, on peut toujours s'inventer une raison, on peut toujours se dire que c'est parce qu'on les connaît trop mal, c'est parce que on est étranger dans un lieu où on peut invoquer toutes sortes de choses pour expliquer son mal-être en fait. Alors que dans le familier, l'inconfort est vraiment très douloureux, je pense, plus douloureux et surtout plus évident.
J'avais dit qu'on parlerait de votre rapport au travail. Vous l'avez mis dans vos remèdes, le travail, Céline Deveau. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous dites que c'est l'antispleen le plus pur de votre vie aujourd'hui. Mais j'ai lu que pendant vos études, vous réalisiez un petit film d'animation, How to make a hysterically funny video on a very sad music. C'était autour d'un très bel air de Rossini. Et alors, pendant 2-3 semaines, vous vous êtes enfermé dans un atelier dans le noir. Vous ne faisiez que ça. Et il y a eu une révélation.
Oui. En fait, j'ai découvert, j'ai découvert que travailler, c'était être injoignable. Et je pense que la politesse est un peu l'ennemi de l'art. Alors ça paraît très pompeux de le dire comme ça, mais il y a quelque chose où c'est une liberté qu'on prend avec le monde quand on ne peut plus répondre au téléphone. Et je me disais en riant avec moi-même, hein, parce que bon, on s'amuse comme on peut, que je suis à peu près sûre qu'il y a plein d'artistes très 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 prolixes. Qui en fait sont aussi prolixes parce que tout simplement ils voulaient pas être dérangés, c'est pas parce qu'ils étaient des génies quoi, et que en fait ils se sont dit ah mais c'est génial. Bon alors maintenant c'est une histoire d'internet et de téléphone, ça capte pas. J'étais dans un studio qui ne captait pas, c'était incroyable, c'était la découverte d'une nouvelle vie. Et surtout, contrairement à l'éducation qu'on nous donne, qui est quand même cette idée de groupe constant, de structure sociale dans laquelle on est censé exister, je découvrais que la solitude était géniale, que j'étais heureuse seule. Ce qui est quand même quelque chose qu'on devrait apprendre aux gens
qu'ils apprennent à parler. On doit avoir un apprentissage de ça, parce que c'est difficile de subir sa propre compagnie. Souvent, les gens fuient la solitude.
Oui, je pense que c'est une erreur, parce qu'en fait, quand on accepte la solitude, au contraire, je sais pas, on peut découvrir tellement de choses, même l'ennui, c'est... Je préfère l'ennui à la mélancolie, par exemple.
L'ennui, oui, c'est plus fécond pour la création.
Oui, et puis on peut être tout à fait ennuyé et en paix, alors que la mélancolie, c'est pas pacifique, quoi.
C'est vrai, mais heureusement, Heidegger va venir dans quelques minutes pour en parler. Le temps d'écouter Springfield 61 du groupe L'Épée, dans lequel on retrouve The Liminiana, c'est Emmanuel Seigné.
Je prends un autre coussin, la couche à deux, mon Springfield.
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de la réalisatrice Céline Deveau et d'Heidegger.
Der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Man kann nicht nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen.
L'idée et le fondement de ma pensée est précisément que l'être ou le pouvoir de la manifestation de l'être a besoin de l'homme. On ne peut pas poser la question de l'être sans poser la question de l'homme. C'est la voix d'Heidegger qu'on entend sur la chaîne de télévision allemande ZDF en septembre 69 à l'occasion de son 80e anniversaire. Céline Deveau, vous avez choisi l'une de ses citations. Dans la nuit claire du néant de l'angoisse se montre enfin la manifestation originelle de l'existant comme tel, à savoir qu'il y est de l'existant et non pas rien. C'est tiré de Qu'est-ce que la métaphysique, question 1 et 2, paru chez Gallimard. Et alors, j'ai beaucoup apprécié, Céline Deveau, que vous avouiez n'avoir pas lu ce livre en entier. C'est une amie qui vous a envoyé ce texte un soir de beuverie, après un soir de beuverie où vous parliez de l'angoisse et elle hurlait, il faut lire Heidegger.
Exactement. En fait, elle m'a parlé de ça et elle m'a dit, je t'enverrai le texte. Bon, effectivement, dans un état d'ébriété assez avancé pour nous deux. Hein. Donc, j'avais peut-être même oublié quand elle me l'a envoyé et ce texte m'a énormément marqué. Alors, j'irai pas effectivement jusqu'à lire le livre entier parce que ça va, quoi. On a des choses à faire. Mais en fait, ce qui m'a soulagée profondément, c'est de, j'arrête pas de dire soulagée d'ailleurs, c'est un peu bizarre, hein, ça va devenir freudien cette affaire, mais c'est qu'ils disent. Sans le néant, il n'y a pas d'existant. Donc c'est la même chose avec cette histoire de mélancolie. Sans mélancolie, il n'y a pas de bonheur. C'est-à-dire, on se souvient quand on est mélancolique, on se souvient d'avoir été heureux et on tend vers le bonheur, ce qui ne va pas dans l'autre sens pour le coup. Et c'est pareil avec le néant. Ce qu'il dit, c'est que le néant fait glisser l'existant, et donc ça veut dire que l'existant existe, qu'il est là, qu'il n'y a pas rien. Parce qu'il commence le texte en faisant une distinction fondamentale entre la peur et l'angoisse, en disant qu'on a peur de quelque chose, mais que l'angoisse est l'angoisse devant rien. Et que c'est d'ailleurs une angoisse commune. Il dit « on est angoissé », alors que « j'ai peur ». Et ce texte m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Je le relis régulièrement pour me remettre, enfin je sais pas, ça m'a un peu enraciné dans une sorte de compréhension de ces choses qui nous traversent et qu'on n'arrive pas du tout à expliquer en fait.
Il y a presque quelque chose de rassurant concernant l'angoisse chez Heidegger, puisque pour lui, c'est une mise entre parenthèses du monde. On arrête cette fuite perpétuelle et on se confronte enfin à soi. Et l'acte créateur, il a besoin de ça absolument.
Oui, mais alors après, c'est toujours pareil, c'est qu'il a besoin de ça a posteriori. Mais dans le moment de l'angoisse ou dans le moment de la mélancolie, je pense que c'est les moments les moins créatifs qui soient, en fait, qui existent, quoi. On est capable de faire très peu. En revanche, se souvenir de la mélancolie ou de l'angoisse, c'est un très bon moteur pour pouvoir écrire, je pense.
Ah, monsieur McQueen, je vous ai fait attendre, mais j'étais occupé aux premières constatations. Et asseyez-vous. Voilà, j'attends de vous, et je vous en saurai gré, tous les renseignements que vous pourrez me donner. Par exemple, qu'est-ce qui vous a...
Éclaircissons quelques points, si vous voulez bien. Monsieur, vous par exemple, monsieur, qui êtes-vous ? Et à quel titre intervenez-vous ici ?
Excusez-moi. Monsieur Poirot est le détective qui a été officiellement chargé de mener cette enquête, par moi. Bon, reprenons les choses d'un peu plus loin. Quels étaient vos liens avec monsieur Ratchett ?
J'étais son secrétaire. Ouais,
depuis quand ?
Un an environ.
Où l'avez-vous connu ?
À Ispahan. Il venait compléter sa collection de poteries anciennes et il y réussissait. Tandis que moi, je cherchais des concessions pétrolières avec tant d'insuccès que lorsqu'il m'offrit de m'employer, j'acceptais avec joie.
Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, adaptation du roman éponyme d'Agatha Christie. Et alors juste pour l'anecdote, la voix qui double Hercule Poirot est celle de Philippe Dumas, qui doublait également Picsou et Gargamel.
Ah, c'est pour ça, donc je me disais bien.
Oui. Céline Deveau, comme remède littéraire suprême, vous avez choisi n'importe quelle Agatha Christie ou Astérix. Et c'est tout.
Oui, parce qu'en fait, je me disais, bon, évidemment, je pourrais briller par ma culture, ces années de lecture dans mon fameux lit, et dire tous ces merveilleux livres que j'ai réussi à lire parce que je suis super intelligente. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Quand on est déprimé, on ne lit pas des choses intelligentes. On n'est pas du tout assez perspicace, encore une fois, pas assez ouvert, en tout cas, dans mon cas. Et donc, quand je suis déprimée, je peux lire des bandes dessinées, mais surtout Astérix, qui représentent en plus cette espèce de... de vortex, maison de campagne, quelque chose de terrien, de profond, d'ancien, ou des Agatha Christie qui sont exactement la même chose, c'est-à-dire qui puent le vieux papier, qui se déchirent quand on les ouvre. Enfin voilà, l'objet même a déjà quelque chose de réconfortant. Et surtout, c'est intellectuellement... Enfin, je sais pas, c'est pas très sympa pour Agatha Christie, mais enfin, c'est quand même assez lourd dans le style. C'est même carrément misogyne. Parfois, c'est carrément raciste. Donc, moi, j'ai quand même assez mauvaise conscience de lire ça avec autant de plaisir. Mais il y a une solution à tout dans Agatha Christie. Où tout est expliqué. Et d'ailleurs, c'est lourdement explicatif. Mais pour autant, il y a ce minuscule éclair dans mon cerveau qui va se réveiller, dans mon cerveau endormi, engourdi, pour me dire, je vais quand même savoir qui a tué Madame Machin, parce que ça va me faire du bien.
Mais c'est tout de même le divertissement absolu. C'est une récréation pour l'esprit jubilatoire, un livre d'Agatha Christie. Parce qu'on sent à chaque ligne qu'elle s'amuse. Et je trouve que c'est communicatif pour le lecteur. Elle se marre en écrivant.
Je suis d'accord, c'est assez communicatif. Et puis en plus, il y a une sorte d'humiliation volontaire à se mettre dans cette situation d'ignorance. C'est très bizarre quand même de lire un bouquin en sachant qu'on n'a pas du tout les clés. On se dit, non, mais je vais quand même continuer parce que si je gagne, ce serait vraiment génial. Alors qu'on on gagne rarement, ou alors, bon, moi j'en ai lu tellement que maintenant je commence un peu à voir venir les grosses ficelles, quoi. Mais oui, il y a quelque chose d'assez jubilatoire là-dedans. Et puis c'est pas de la vraie. En fait, on dit le divertissement absolu, mais le divertissement absolu, c'est le médiocre, quoi. C'est le truc qu'on fait en se détestant. C'est certains trucs de télévision ou des trucs où on se dit, oh, j'ai tellement pas l'énergie que je vais regarder quelque chose de mauvais parce que je ne vaux pas mieux.
Vous pensez que c'est ça le divertissement absolu ?
Bah non, je pense pas. Mais je pense que c'est une tentation en tout cas.
C'est une tentation, bien sûr.
Oui.
Qui nous guette à chaque instant.
Absolument.
Comme la dépression. Céline Devaux, avant de vous entendre lire un petit extrait, je voudrais juste soumettre aux auditeurs quelque chose d'assez joli. C'est une lettre ouverte d'Agatha Christie au lecteur du Club des Masques, datée de mars 1932. Elle donne son secret pour les romans policiers. Je vais vous dévoiler en deux mots le secret de fabrication. Vous choisissez votre coupable et vous mettant dans sa peau, vous décidez des moyens qui vous permettent le mieux de masquer sa culpabilité. Ensuite, ayant fait votre plan, vous recommencez votre exposé par le commencement en vous plaçant du point de vue du spectateur. Essayez et vous verrez comme c'est simple.
Qu'est-ce qu'elle est généreuse, cette Agatha.
On vous écoute, Céline Devaux. Vous nous avez choisi quelle Agatha Christie ?
Alors, j'ai choisi Le meurtre de Roger Ackroyd.
C'est celui que j'ai lu pour l'émission.
Voilà, qui n'est pas du tout le plus... Franchement, bon, voilà, là, ça demande déjà un effort intellectuel assez important, je trouve, hein, comparé au Club du Mardi, par exemple, qui est fait de minuscules nouvelles dont la solution vient hyper rapidement et qui donne l'impression d'aller vite, d'avoir un rythme, voilà, de lecture incroyable. Là, c'est quand même un peu plus long. Mais donc, je vais choisir le paragraphe le plus inoffensif, la chose que je trouve, moi, la plus réconfortante. Donc, coup d'œil sur le Two Kings Abbot, qui est le village où se passe l'action. Avant de m'étendre davantage sur ma conversation avec Caroline, je crois opportun d'esquisser à grands traits ce que j'appellerais notre géographie locale. King's Abbot, notre village, ressemble sans doute à beaucoup d'autres. Cranchester, la grande ville la plus proche, se trouve à 12 km. Nous possédons une gare importante, un petit bureau de poste et deux magasins qui se font concurrence et où l'on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Tous les hommes valides s'empressent de partir dès qu'ils sont en âge de le faire, mais nous ne manquons ni de vieilles filles, ni d'officiers à la retraite. Quant à nos passe-temps et distractions favorites, un verbe suffira pour les décrire, cancaner.
Il y a une ironie chez Agatha Christie qui est assez jouissive. Merci pour cette lecture, Céline Devaux. Il est temps de gigoter en tout sens avec votre premier antidote musical.
Say, can
Écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter avec Céline Devaux qui vient de nous faire entendre l'irrésistible Controversy de Prince, morceau de 1980 qui dure normalement 7 minutes et quelques. C'est la première chanson qui vous empêche d'être triste, Céline Devaux.
Oui, en fait, elle a un effet étrange, cette chanson. C'est que, bon, bah, évidemment, il y a le génie de Prince tout court, et ça, on va même pas commencer à en parler, puisque tout le monde le sait, entre guillemets. Il y a une surprise, en fait, dans cette chanson pour moi. Au départ, quand elle commence, elle me donne une sensation, un peu radio FM, une sorte de souvenir de voyage en voiture, envie de vomir, quelque chose où on reconnaît pas immédiatement.
Une Madeleine de Proust.
Ouais, une Madeleine, un peu dégueu, mais enfin, en tout cas, une Madeleine. Et puis il y a ce refrain qui revient et qui te rappelle à nouveau pourquoi on aime autant cette chanson, pourquoi elle est tellement géniale en fait. Et le fait qu'il y ait une surprise, c'est comme dans On connaît la chanson, c'est il y a ce truc de je commence et je en fait on se confronte à la réalité, c'est-à-dire le quelque chose d'un peu spleenesque et puis je te donne la solution et ça je trouve ça incroyable. C'est un peu la même chose pour moi.
J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'était parce qu'on parle beaucoup de flou, d'anesthésie dans cette émission et c'est quand même un morceau de la confusion puisque controverse, les paroles c'est je n'arrive pas à croire tout ce que les gens disent, suis-je noir ou blanc, suis-je hétéro ou gay, est-ce que je crois en Dieu, est-ce que je crois en moi? Il s'interroge pendant toute la chanson.
Et ben voilà, c'est de là d'où ça vient, c'est une évidence, il s'adressait à moi.
Bah oui, et Céline Devaux, il paraît que vous êtes monomaniaque, que vous pouvez écouter le même album 20 ou 40 fois de suite.
Ah oui, oui, c'est vrai. Mais j'aime les albums. J'aime les playlists qu'on se construit notamment. Enfin, comme je travaille beaucoup seule, j'écoute beaucoup de musique et j'en ai perdu énormément. Et donc cette vraie beauté de l'œuvre construite de A à Z, je la respecte profondément. Les artistes comme Kendrick Lamar ou Flavien Berger,
travaillez dans tous vos films.
Voilà, ils construisent leur album de manière narrative et je trouve ça extraordinaire. J'aime beaucoup.
On saute en 2009. Lunettes noires, vitres baissées, c'est moi dans la belle zone. On croise à 20 à l'air comme dans les rues de Crenshaw. Compère peu fréquentable, insolent comme son père. Négro, crois pas qu'on perd la chatte à ton père. Mais déjà dis-moi d'où tu me connais. Parle-moi de billets violets, d'où me bonnet. Je fais easy money. D'où tu me connais. Parle-moi de billets violets, d'où le titre Double Poney du rappeur Booba qui apparaît dans les remerciements de votre film Vie et mort de l'illustre Grégory Efimovitch Rasputin, rien ne m'échappe, Céline Devaux. Vous dites dans une interview, le rap c'est bien pour se concentrer.
Bah oui,
c'est assez étonnant comme affirmation.
En fait, je partage ce goût pour le rap et le travail avec d'autres amis artistes qui partagent exactement la même rythme de travail entre guillemets. C'est que en fait, c'est tellement conquérant. Il y a quelque chose de tellement simpliste parfois dans ce je dis, je désire et je dis, je prends. C'est le contraire de toute notre façon de faire. Moi, je suis pas du tout comme ça dans la vie. Moi, je pourrais jamais dire ce que dit Booba à son ennemi dans cette chanson. Et en fait, ça m'élève, c'est-à-dire que ça m'élève au-dessus de moi, ça ne me concerne pas, donc ça ne peut provoquer aucune tristesse en moi, parce que nous n'avons pas les mêmes préoccupations, hein. On parlerait, de beaucoup de sexe, de beaucoup d'alcool, de beaucoup d'argent et d'exil fiscal, donc c'est sûr que moi je suis pas dans cette configuration-là. Et du coup, comme c'est éloigné de moi, et en même temps tellement volontaire et avec une telle solution rapide, je trouve ça me fait du bien.
Alors j'ai noté quelques phrases de ce morceau, Céline Devaux. Bon, c'est un peu facile hein, de ma part, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup amusée. Alors je vais être un peu vulgaire. Mm-hmm. On te nique ta mère et ta grand-mère si elle est toujours en vie. Ce qui, ma foi, est assez charitable déjà pour commencer, mais en plus j'aime bien l'insulte. Je veux dire, on te nique ta mère et ta grand-mère, et puis après quand même un petit temps de réflexion si elle est toujours en vie. Je sais pas si c'est de la politesse ou juste un dégoût de la nécrophilie.
Alors je sais pas. Moi je me suis dit que c'est certainement parce qu'il a dû préciser que ça voulait dire que la grand-mère était vraiment très vieille, mais qu'il le ferait quand même. Et en même temps, mon copain avait cru qu'il disait, et ça rendait Booba très très sympathique à ses yeux, il pensait que Booba disait « si elle a encore envie ». Et du coup, il disait, bah, ça, c'est cool, quoi. Je veux dire, si elle a envie, on peut s'arranger et tout. Mais c'est pas ma phrase préférée de cette chanson. Parce
c'est
que...
laquelle, votre phrase préférée?
Alors, moi, c'est, tu te fais des casse-croûtes, je me fais des restos, j'envoie des diamants à ma go, t'envoie des textos.
Des textos, oui.
Ça, je me dis, si un jour j'ai la présence d'esprit de dire ça à quelqu'un. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Je n'ai aucune street crédibilité en plus, mais je trouve ça tellement bien sorti. Il y a un truc de joute, quoi. Une vraie joie de la joute.
Ça peut venir, ça peut venir.
I've never in a way been a 9 to 5 or you know 12 till midnight type artist. It's just I have to be inspired to paint and I have to have fresh ideas. And I don't really I find if I kind of really look hard for things, it almost goes in the other direction. It's things that come to me just by without me wanting to find them.
L'artiste Peter Doig, interviewé par le réalisateur Jasper Sharp à Vienne. Voici la traduction. Je n'ai jamais été un artiste qui travaille de 9 à 17 heures ou de midi à minuit. J'ai besoin d'être inspiré pour peindre. J'ai besoin d'idées nouvelles. Parfois, j'ai envie de quelque chose et ça part dans une autre direction. Les choses viennent à moi sans que je les cherche. Peter Doig, né en 59 en Écosse, est devenu en 2007 l'un des peintres contemporains les plus cotés du monde. Eh bien, lui fait partie de votre panthéon d'artistes consolatoires, Céline Devaux. Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Est-ce que vous pouvez décrire son œuvre?
Oui, mais ça, vous avez évidemment raison. On admire ce qui ne nous ressemble pas, mais...
En fait, je vais dire des choses très bateaux, mais donc les gens qui seront assez curieux iront voir tout simplement ses peintures. La lumière, il y a quelque chose de très 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 vivant dans les tableaux de Peter Doig et de très lointain. C'est comme une sorte de voyage immédiat, quoi. Il y a un vrai... Je ne sais pas si on peut appeler ça exotisme sans être stupide, mais... Une sensation de voyage réelle, ouais.
C'est souvent des grands espaces vides ou avec seulement un personnage. Et il y a quelque chose un peu de l'illustration, voire de l'art brut.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, tout est réel et tout est faux en même temps. C'est un peu le réalisme magique en peinture, quoi. C'est très agréable, je trouve. Il y a un mystère.
Céline Devaux, vous avez aussi choisi comme œuvre picturale, il y en a plusieurs, le Beatus de Liébana, un manuscrit qui tient son nom d'un moine et théologien espagnol du 8e siècle, auteur d'un commentaire sur l'Apocalypse. Alors j'imagine que vous avez choisi ce manuscrit pour ses enluminures.
Oui, tout à fait. Et en fait, il y a plusieurs Beatus, et en général, de toute façon, dans l'art médiéval, il y a une sorte de folie cachée dans tous les recoins des enluminures et des, enfin, comme dans les chroniques de Nuremberg, enfin, bref, il y a plein d'exemples. Et on a toujours l'impression d'assister à quelqu'un qui a fait une blague dans un coin de la page. Et ça, je trouve ça irrésistible.
Oui, parce qu'il y a des types sur des chevaux avec une tête comme s'ils digéraient mal.
Exactement. Et les couleurs sont sublimes. En plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est très beau et en même temps drôle. Enfin, je sais pas, comme un secret.
Vous avez choisi aussi, je le dis pour les auditeurs, ils peuvent aller voir les dessins sur Internet, le Beatus de Saint-Sever. C'est le seul Beatus français connu à ce jour. Avec 105 enluminures. Et pour l'émission aussi, cette artiste contemporaine, Camille Henrot, qui vit et travaille à New York.
Alors, elle est connue en grande partie pour une vidéo qui s'appelle Grosse Fatigue et qui réunit en spoken word des cosmogonies mondiales de différentes époques. Et en fait, toute l'action, entre guillemets, de cette vidéo se place sur un desktop d'ordinateur, sur un bureau d'ordinateur, avec des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment. Et c'est d'une précision et d'une subtilité, je trouve, sur notre époque et notre rapport à l'échelle, en fait, à ce qui m'intéresse, ce que je vis ou ne vis pas, ce que j'essaie de comprendre. C'est très beau.
Et alors, un dernier mot en quelques secondes sur Bruegel. Vous dites Bruegel pour toujours, Céline Devaux.
Oui, Bruegel pour toujours. Parce que il fait appel à une sorte d'innocence et que quand on le regarde, on est toujours estomaqué par la beauté, mais aussi par le détail. Un peu comme, il y a un mélange de sublime et de livre d'enfant.
De ludique.
Exactement.
Merci beaucoup, Céline Devaux, d'être venue dans cette émission.
Merci, Eva.
En attendant, votre premier long métrage qui est en développement avec Sylvie Piala des films du Warsaw, on peut voir certains de vos courts métrages en ligne. Chers auditeurs, chansons et remèdes sont à retrouver sur le site de l'émission. J'espère que votre humeur a la grâce prime sautière d'une échalote ballerine, quoi d'autre. Rendez-vous dimanche prochain à 10h.